Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, instant nostalgie fiscale. La campagne 2019 de l'impôt sur le revenu est lancée aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre nous, c'est la dernière déclaration que nous remplirons. L'impôt est maintenant prélevé à la source. Cette déclaration, question très concrète avec l'invité du journal de 13h, l'avocate fiscaliste Gaëlle Lejeune. Pour ou contre Netanyahou, élection législative en Israël. Après une campagne en mode Trump, le Premier ministre sortant peut battre, s'il gagne, le record de longévité de Ben Gourion.
Il a apporté beaucoup de sécurité, d'aura internationale, c'est important aussi.
Reportage tout à l'heure de Valérie Crova à Tel Aviv, puis l'analyse d'Étienne Monin. Vous vous souvenez de Geneviève Leguet, cette militante bousculée, blessée lors de la manifestation de Gilets jaunes à Nice. Blessée par la police ou pas, question clé. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
La femme chargée de l'enquête se trouve être la compagne du responsable des opérations de maintien de l'ordre ce jour-là à Nice.
Oui, c'est une histoire dont on se serait bien passé du côté de la place Beauvau, ministère de l'Intérieur, et du ministère de la Justice, où l'on considère cette décision prise par le procureur de Nice comme... lunaire.
Les détails tout à l'heure dans ce journal. Encore Éric Drouet, le gilet jaune qui voulait entrer à l'Élysée n'est pas le bienvenu au Sénat. Les salles de shoot s'installent un peu plus dans le paysage. L'ouverture d'un nouveau local envisagé à Marseille. Des lits installés l'hiver prochain dans celui de Strasbourg pour aider les drogués SDF à sortir de la rue. De plus en plus d'étudiants français en Belgique, cela commence à poser problème. Et puis cette question, le sélectionneur de l'équipe de France de rugby doit-il être un étranger? Les clubs amateurs consultés à partir d'aujourd'hui. La météo, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Que dit météo France?
Eh bien, temps nuageux et capricieux dans l'ensemble cet après-midi avec des risques d'averses et d'orages. On a déjà eu des orages au nord de la Seine-et-Marne ce matin. Le risque d'orage sera plus marqué cet après-midi sur le relief du Massif central, dans les plaines du sud-ouest, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Basse-Normandie. On trouvera quand même de belles éclaircies entre les bords de la Garonne et la Bretagne, sur l'est de la Corse et en Rhône-Alpes. Et les températures sont comprises entre 12 et 20 degrés du nord au sud.
A tout à l'heure pour les détails. Et puis la chronique santé cette semaine nous est inspirée par Mick Jagger. Vous comprendrez pourquoi. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Coïncidence, hier le Premier ministre parlait d'une immense exaspération fiscale. Eh bien aujourd'hui commence la campagne 2019 de l'impôt sur le revenu. Nouveauté, l'impôt est prélevé à la source depuis cette année. Est-ce que ça change quelque chose? Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Delphine, vous êtes à Bercy. Alors ce que ça change, c'est que pour beaucoup d'entre nous, cette déclaration est sans doute la dernière.
Oui, c'est la fin de la corvée en quelque sorte. La dernière fois que la déclaration de revenus est systématique, elle est devenue un peu superflue car le prélèvement à la source incite à déclarer aussitôt tout changement de situation personnelle à l'administration fiscale en cas de divorce ou de licenciement. Du coup, plus besoin de renseigner tous les ans des informations mises à jour plus rapidement. Une avancée qui sera accessible dans un premier temps pour ceux qui ont des revenus réguliers, les salaires ou les pensions. À l'avenir, vous ne déclarerez qu'en cas de changement fiscal. Toute dernière fois, mais aussi toute première fois depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source. Alors c'est un peu compliqué, mais pour éviter de payer deux fois l'impôt sur les revenus 2018, Bercy a prévu une année blanche. Pour la plupart, les impôts sur les revenus réguliers vont être complètement effacés. Seuls les revenus exceptionnels restent dus. Il faudra les déclarer. Ces revenus, ce sont par exemple les primes de départ, de licenciement et certains jours de CET monétisés. Il est important de faire encore cette dernière déclaration, notamment pour tous ceux qui touchent des aides sociales, car elles conditionnent l'accès aux allocations familiales ou au RSA. Une déclaration de revenus qui doit se faire, c'est obligatoire cette année sur Internet, via son compte fiscal. 15 millions de foyers la remplissent encore sur papier. Alors, pas de panique si c'est votre cas, Bruno. Il est toujours possible de la remplir avec un bon vieux stylo, si pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes pas en mesure de la faire en ligne.
Merci Delphine Simon, en direct de Bercy avec Cyprien de Limerville. Et d'autres questions très concrètes à propos de cette déclaration tout à l'heure avec l'invité du journal de 13h, l'avocate fiscaliste Gaëlle Lejeune. Avant cela, l'actualité internationale, le déplacement de la vie politique vers la droite, l'influence des réseaux sociaux, les clashs, une forme de populisme. Après les USA, l'Italie et bien d'autres pays européens, Israël a été touché à son tour lors de la campagne législative. C'est maintenant le jour du vote. Les bureaux sont ouverts de 7h à 22h, heure locale, la plupart du temps dans des écoles. C'est le renouvellement de la Knesset, le Parlement, pas moins d'une quarantaine de listes, deux favoris pour le poste de Premier ministre. À droite, très à droite, le sortant Benjamin Netanyahou, au pouvoir depuis 13 ans. Son rival est de centre-droit, Benny Gantz, ancien chef d'état-major. L'envoyé spécial de France Inter à Tel Aviv. Et Valérie Crova, cette élection, Valérie, c'est un peu un référendum pour ou contre Netanyahou.
Dans ce bureau de vote installé dans une école, les habitants de ce quartier du nord de Tel Aviv se succèdent sous un beau soleil. Une femme tient sa carte d'électeur dans la main. Je suis très enthousiaste, on veut du changement. Nous ne pouvons plus supporter la coalition avec le Premier ministre que nous avons. Il est terrible, absolument terrible. Il a changé toute l'atmosphère en Israël. Il ment. Celui qui n'est pas avec lui est son ennemi. Les supporters de Benjamin Netanyahou ne sont pas majoritaires ici. La ville de Tel Aviv vote traditionnellement à gauche. Abraham fait figure d'exception.
Il a apporté beaucoup de sécurité, d'or international. C'est important aussi. Hein. Il a construit quand même une relation internationale pour Israël qui est plutôt bonne. Hein. Je connais peu, comment il s'appelle Gantz, hein, je le connais peu, il n'a jamais été dans un gouvernement, donc j'ai peur que la gestion du pays ne soit pas tout à fait à la hauteur de ses compétences. Voilà.
Il faudra attendre 22h ce soir pour connaître les premiers résultats. Il reviendra ensuite au président Reuven Rivlin de désigner celui qui formera le prochain gouvernement. Tel Aviv, Hélène Langlois, Valérie Crova, France Inter.
Les deux favoris n'auront sans doute pas assez d'élus pour gouverner seuls. Il faudra une coalition. Netanyahou battrait en juillet le record de longévité de David Ben-Gourion s'il restait Premier ministre. Bonjour Étienne Menin.
Bonjour Bruno.
Alors, vu de la fenêtre de Benjamin Netanyahou, Étienne, ce qu'on peut dire, c'est qu'il aura tout donné dans cette campagne et pourtant, il n'est pas sûr de gagner.
Oui, dans les 15 derniers jours, il a surligné son image d'homme d'État avec le soutien de Trump, de Jair Bolsonaro et indirectement de Vladimir Poutine. Il a aussi endossé le costume de la droite dure en opposant les citoyens juifs et arabes. Et sur la fin, il a rompu sa politique de statu quo en promettant l'annexion des colonies. Le Premier ministre a mis toutes les cartes sur la table. Il a vu progresser l'alternative Benny Gantz dans les sondages. Il a été rattrapé par les affaires en pleine campagne. Il y a en Israël à la fois aujourd'hui une addiction et une lassitude sur sa façon très personnelle de gouverner, y compris dans une partie de la droite attachée à l'état de droit. Les derniers sondages donnent le Likoud en deuxième position derrière le parti bleu-blanc des généraux. Pour éviter cet effet d'attraction, le Premier ministre a réorienté sa campagne sur la fin. Après avoir renforcé les petits partis de la droite dure, il pourrait maintenant essayer de les siphonner. Il a en tout cas demandé à tout le monde de voter pour le Likoud. Mais il y a un risque d'effet boomerang avec la disparition de certains de ces petits partis charnières à droite et l'idée d'une impossible coalition à la fin.
Étienne Menin en direct avec nous pour ces élections législatives dont il sera évidemment question dans un jour dans le monde à partir de 18h15 avec Fabienne Sintès, un président par intérim en Algérie. Abderkader Ben Salah a été nommé ce matin malgré l'opposition de la rue. Et puis à Istanbul, le parti d'Erdogan est donné perdant, vous savez, au municipal à Istanbul. Eh bien, l'AKP demande un nouveau vote. En France, alors que les garants du grand débat parlent d'un moment démocratique exceptionnel, eh bien, il y a encore dans cette longue crise des gilets jaunes, des moments de crispation. Illustration avec un épisode qui implique Éric Drouet, l'homme qui voulait entrer dans l'Élysée. C'est dans le cadre du débat sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Julie-Marie Lecomte.
Une délégation de gilets jaunes devait être reçue à 10h30. Coup de fil une demi-heure avant, le rendez-vous est annulé. Colère de Faouzi Lelouch dans le groupe qui devait être auditionné.
On nous annule comme ça, comme si on était rien. C'est pas poli, c'est pas correct. Pour des institutions, pour des gouvernants, pour des gens qui nous représentent, ça l'affiche mal. On est qui ? On est juste des citoyens qui votons pour vous. Et je peux vous dire, on va s'en rappeler.
Catherine Fournier, la présidente UDI de la commission spéciale sur la loi Pacte qui devait les recevoir, explique qu'elle a préféré annuler le rendez-vous quand Éric Drouet, figure fameuse du mouvement, s'y est greffé, ce qui n'était pas initialement prévu, précise-t-elle. Puis quand il a communiqué sur les réseaux sociaux, appelant même à manifester devant le Sénat cet après-midi, alors que le texte doit de nouveau y être débattu, pas envie, dit-elle, que les 360 heures d'audition menées par sa commission soient éclipsées par un buzz. Directement visé, Éric Drouet soupçonne plutôt une pression du gouvernement.
J'en veux pas justement au Sénat parce que je pense pas que la décision vienne d'eux, mais plus du gouvernement, parce que justement, c'est plus le gouvernement qui est bloqué à ces discussions justement. Ouais. On vient contester directement un choix du gouvernement, donc je pense pas que ça a été apprécié, et du coup peut-être que c'est à cause de ça que ça a été annulé. Ouais.
Catherine Fournier reconnaît facilement qu'elle a bien eu Bruno Le Maire au téléphone et le ministre de l'économie lui a en effet dit qu'il ne trouvait pas le rendez-vous de bon ton. Mais la sénatrice insiste, son propos est surtout de ne pas laisser instrumentaliser le travail des sénateurs.
Compte rendu du grand débat à l'Assemblée cet après-midi, après-midi spécial, échange sans vote entre les chefs de groupe et le Premier ministre. Édouard Philippe qui parlait hier de l'immense exaspération fiscale des Français, de la nécessité de baisser vite les impôts. C'est un message que reprennent depuis plusieurs semaines les ministres de droite au sein du gouvernement. gouvernement. Alors est-ce que ce grand débat aurait réactivé un clivage gauche-droite dans la majorité? Réponse d'un des ministres associés de très près au grand débat, Sébastien Lecornu, invité de France Inter ce matin.
Pour rien au monde, il ne faut réinventer ce clivage gauche-droite. D'ailleurs, le grand débat national n'appelle pas ça dans le pays. Je pense que le rejet, justement, des hommes et des femmes politiques est très fort. Donc, personne n'est attaché à ce clivage gauche-droite. Et fondamentalement, le réinventer et le réinstituer au sein de la majorité présidentielle, je pèse mes mots, serait stupide. Stupide.
C'est le député Aurélien Taché, issu des socialistes, qui dit clairement qu'il veut vous faire contrepoids.
Je réponds à Aurélien, qui est un copain, qu'il n'y a pas de contrepoids à avoir, puisque fondamentalement, nous ne sommes pas là pour inventer des clivages gauche-droite. Ça serait une erreur, une faute, et je le redis, ça serait fondamentalement stupide. Après que Gérald Darmanin, ministre des Comptes Publics, s'occupe des comptes publics, et dise qu'effectivement, pour boucler un budget à un moment donné, si on veut faire des baisses d'impôts, il y a peut-être un certain nombre de mesures d'économie qu'il faut peut-être traiter ou regarder qui sont sur la table, c'est son job. Faire attention à la dépense publique, fondamentalement, c'est plus un problème gauche-droite.
À l'instant, le préfet du Rhône qui annonce l'interdiction par arrêté de toute manifestation samedi, jour traditionnel des défilés des Gilets jaunes. Et justement, deux semaines et demie après un samedi Gilets jaunes à Nice, on reparle du cas de Geneviève Leguet. Cette militante attaque de 73 ans, bousculée le 23 mars, puis hospitalisée. Alors, faute de la police ou pas, c'est une des questions. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Une enquête avait été ouverte et un détail relevé par nos confrères de Mediapart intrigue et sent le conflit d'intérêts. La commissaire chargée de l'enquête est la compagne de celui qui était responsable des opérations de police le jour de la manif à Nice.
Oui, une décision du procureur de Nice, Jean-Michel Prêtre, qui avait déjà commenté ce choix passé un peu inaperçu et qui peut paraître surprenant lors d'une de ses premières conférences de presse sur cette affaire. Pour lui, il ne s'agissait pas d'une enquête pénale au sens classique du terme, juste une enquête préliminaire pour déterminer la cause de la blessure de Geneviève Leguet. Un choix défendu ce matin par maître Adrien Verrier, l'avocat du policier mis en cause, au micro de nos confrères de France Bleu Azur.
Le conflit d'intérêts, il serait suivi d'une volonté de camoufler, d'une volonté de tronquer le déroulement d'une procédure. On pourrait se poser la question. Moi, ce que je constate simplement, c'est que mon client, il a été interrogé avec des questions qui ont été posées à charge, à décharge, de façon neutre, de façon objective. Est-ce que le dossier est classé sans suite aujourd'hui? Non. Vous avez un procureur qui a décidé de poursuivre les investigations dans un autre cadre, le cadre d'une instruction.
Et ce matin, effectivement, le procureur de Nice a ouvert une information judiciaire avec la nomination d'un juge d'instruction indépendant et la saisine, cette fois très probable, de l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale.
Merci Emmanuel. La zone où se tenait la manifestation était interdite. Hein. Rappelons-le, Geneviève Leguet assure qu'elle ne le savait pas. Elle dit avoir été frappée par une matraque. Aucun coup de matraque, dit de son côté l'avocat du policier. Comment éviter que le Mont Blanc se transforme en autoroute A7? Un grand week-end de vacances. Comment limiter la fréquentation et les désagréments et les mesures, le sentiment de manque de sécurité qui vont avec tout cela? De nouvelles règles d'ascension entrent en vigueur le 24 mai sur la voie normale pour accéder au Mont Blanc. Réservation nominative obligatoire dans les refuges de Tétrousse, du Goûter et du Nid d'Aigle. Richard Vivian, très concrètement, comment ça se passe?
Je suis alpiniste et cet été, je veux donc faire le Mont Blanc via la voie royale. Je vais donc devoir réserver mes nuits à Tétrousse et au Goûter. Pour cela, il va falloir que je me connecte à l'un des sites internet des deux refuges. Il faudra que je me crée un compte client en précisant mon identité. Une fois cela fait, je pourrai enfin réserver. Ensuite, je vais recevoir par email un justificatif qui pourra m'être demandé par les gendarmes qui cet été effectueront des contrôles, mais aussi par la Brigade Blanche que Jean-Marc Payex, le maire de Saint-Gervais, va mettre en place.
La Brigade Blanche, ce seront des professionnels de la montagne, anciens guides, anciens gendarmes, peut-être du PGHM. Alors, ils seront assermentés et qui vont en fait parcourir la montagne, qui vont justement pouvoir dire comment on fait le Mont Blanc, quel matériel il faut, et puis de dire aux gens, vous n'avez pas de réservation, eh bien, vous pouvez tenter votre chance, mais une autre fois.
Et le non-respect de la réservation et donc de l'arrêté préfectoral qui, à partir du 24 mai, encadre cette mesure, sera au minimum passible d'une amende. Le nombre de places maximum au refuge du Goûter a été fixé à 120, 74 pour le refuge de Tétrousse, plus 40 places de camping.
Dans la Manche, une vingtaine de migrants qui tentaient de traverser la mer et de se rendre en Angleterre ont été secourus ce matin. Ils cherchaient donc à aller en Angleterre. À propos de l'Angleterre, le Brexit, Theresa May à Berlin et Paris pour obtenir un nouveau délai. C'est cet après-midi avant le sommet européen de demain. L'Union européenne est prête à accorder un délai au Royaume-Uni, dit le négociateur européen Michel Barnier, qui parle de moments très graves. Nous sommes préparés à tous les scénarios.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Et comme promis avec l'invité du journal de 13h, retour sur les questions concrètes qui se posent alors que la campagne 2019 de l'impôt sur le revenu est lancée aujourd'hui. Bonjour Gaëlle Lejeune.
Bonjour.
Merci d'être venue dans le studio de France Inter, avocate fiscaliste au sein du cabinet Fidal. Alors d'abord, même si maintenant l'impôt est prélevé à la source, faut remplir la déclaration de revenu, hein?
Tout à fait. Cette année, il faut encore remplir la déclaration de revenus. Et pourquoi il faut remplir la déclaration de revenus? Parce qu'il faut quand même que l'État calcule votre impôt. Et surtout, cette année, on en a bien parlé, c'est l'année dite blanche, pour éviter qu'on ne vous prélève deux fois l'impôt. Donc c'est surtout l'année où il ne faut absolument pas se dispenser de remplir sa déclaration.
Alors année blanche, vous l'avez dit, année 2018, blanche. Est-ce que ça signifie on paye l'impôt à la source et on déclare les revenus 2018, on va être prélevé deux fois?
Non, on va pas être prélevé deux fois. C'est pour ça qu'il y a cette année blanche. C'est pour qu'on ne soit pas prélevé deux fois. Le Conseil constitutionnel ne l'aurait pas permis. En ce moment, vous payez vos impôts au fil de l'eau, au fil de la perception de vos revenus. Mais les revenus que vous avez payés l'année, que vous avez gagnés l'année dernière, vous n'avez pas payé d'impôt encore dessus. Donc là, vous allez les déclarer. L'État va calculer un impôt théorique. Et ensuite, il va apprécier, selon le caractère exceptionnel ou pas de ses revenus, s'il vous décharge de cet impôt théorique calculé ou si vous devez quand même un impôt.
Ça veut dire quoi exceptionnel? C'est toute la question au fond. Est-ce que si j'ai eu une petite augmentation, on en tient compte ou pas? Qu'est-ce que ce revenu exceptionnel qui, lui, du coup, sera imposé?
Tout à fait. On va payer de l'impôt que sur le revenu exceptionnel. Le revenu exceptionnel, il n'est pas par montant. Pas du tout. Il est par nature. Un revenu exceptionnel, c'est un revenu que vous n'êtes pas susceptible de toucher chaque année. Votre augmentation, éventuellement, vous avez pu en avoir une en 2017 et encore bien travailler et une de nouveau en 2018.
Donc même si elle est importante, elle ne sera pas...
Tout à fait. Même si elle est importante, elle ne sera pas. On pourrait prendre un autre exemple. Une prime. Par exemple, vous êtes commercial et vous touchez une prime qui dépend du montant des ventes que vous avez faites en 2018. Cette prime, elle est très certainement prévue par votre contrat de travail. Donc dès lors que cette prime, même si c'est un gros montant, elle est prévue par votre contrat de travail, pas de problème, c'est un revenu courant, vous ne paierez pas d'impôt sur cette prime. En revanche, un revenu exceptionnel, par exemple, c'est une indemnité de départ à la retraite. On est bien d'accord, ça arrive une fois par vie. Une indemnité de licenciement, c'est aussi un revenu exceptionnel. Alors à ce moment-là, là, sur ce revenu dit exceptionnel qui n'est pas susceptible de se renouveler tous les ans, là, vous allez payer de l'impôt.
Ce que veut savoir aussi l'administration fiscale avec cette déclaration, c'est si ma situation fiscale a changé, si je me suis marié, si j'ai divorcé, s'il y a eu un décès. C'est aussi pour ça que c'est important de remplir la déclaration cette année.
Tout à fait, parce qu'on apprécie, vous savez que l'impôt sur le revenu français est calculé en fonction de vos charges de famille, et puis il est calculé aussi en fonction d'un deuxième élément qui sont les réductions d'impôts et les charges d'impôts éventuellement que vous avez. Donc effectivement, vous mettez à jour votre déclaration, est-ce que vous avez eu des enfants, est-ce que la composition de votre foyer a changé, et puis vous allez aussi déclarer, vous savez, sur une des dernières pages de la déclaration, si vous avez fait garder vos enfants, si vous avez eu un employé à domicile, si vous avez fait des dons aux associations. Et c'est à partir de ces deux éléments aussi qu'on calcule l'impôt, donc il est nécessaire de les déclarer, l'administration ne les connaît pas.
À partir de l'année prochaine, Gaëlle Lejeune, la logique, quelle sera-t-elle? Si ma situation ne change pas, c'est-à-dire si pas de revenus exceptionnels, si pas de changements familiaux, je ne fais rien, et en revanche, s'il y a des changements de ma situation fiscale, je déclare. Ce sera ça la logique, en gros?
Alors, c'est l'annonce de Gérald Darmanin, donc pour l'instant, on est sur une annonce. Il a annoncé qu'effectivement, il envisageait à terme de supprimer la déclaration de revenus. C'est possible pour la partie des Français qui sont salariés et pour lesquels le montant du salaire apparaît déjà et pré-rempli. Depuis quelques années, il apparaît déjà sur votre déclaration de revenus. Donc si votre foyer, la composition de votre foyer n'a pas changé, puisque votre employeur a déjà rempli le montant des salaires sur lequel vous devez payer l'impôt, effectivement, éventuellement, il est possible que vous n'ayez rien à déclarer.
En revanche, si je ne suis pas salarié...
Si vous n'êtes pas salarié, si vous êtes indépendant ou si vous avez des revenus fonciers, par exemple, si vous louez un appartement, l'État ne sait pas a priori parce qu'il n'y a pas une autre personne, un employeur qui vient déclarer le montant. Donc là, on aura besoin d'une déclaration. Il y a quand même un petit sujet sur lequel on va peut-être plus déclarer ses revenus, mais on va quand même déclarer ses charges quelque part. Donc je comprends l'effet d'annonce sur l'obligation déclarative.
Mais vous demandez à voir.
Mais j'attends de voir parce qu'il va quand même falloir que vous déclariez vos dons aux associations et ce genre de choses qui sont aussi tout aussi important.
Question annexe, vu de votre cabinet de droit fiscal à vous, cette histoire d'immense exaspération fiscale, est-ce que vous la notez? Comment elle se manifeste, sachant que vos clients sont plutôt des gens, des grosses entreprises, des gens assez fortunés? Comment vous la notez, cette exaspération fiscale? Est-ce que vous la remarquez?
Alors, effectivement, moi je travaille plutôt effectivement sur la fiscalité des entreprises, ouais, ou la fiscalité d'un certain patrimoine. Ouais. Elle se traduit par effectivement l'exaspération dont on a parlé, et surtout s'agissant des entreprises, sur une incertitude. Vous savez, Emmanuel Macron, quand il a été élu, au début dans son programme, il avait bien indiqué je ne toucherai qu'une fois un impôt et je n'y reviendrai plus pendant mon quinquennat.
Ouais. Autrement dit.
Tout à fait. La clarté et la constance. Ouais. Et c'est bien ce qui manque dans notre politique fiscale, c'est que du coup les entreprises sont parfois perdues. Et en ce moment, on s'interroge. Il a baissé le taux de l'impôt sur les sociétés. Finalement, on recule cette baisse d'une année.
Ouais.
Il a supprimé l'ISF. Et pour l'instant, j'entendais Bruno Le Maire sur une de vos antennes dire il y a quelques minutes, on n'y reviendra pas.
Ouais.
Mais ça, c'est Bruno Le Maire qui le dit. On va voir ce qu'en font les députés. Donc, c'est une incertitude en disant, mais Emmanuel Macron, on est parti avec Emmanuel Macron sur un projet de stabilité, de sécurité juridique. Va-t-on aller au terme du quinquennat sur cette stabilité? Est-ce que la fin de l'ISF, la mise en place de la flat tax, tout ce qu'on fait pour faire revenir l'investissement en France, y compris dans le cadre du Brexit, est-ce qu'on va bien tenir sur les 5 ans? C'est la visibilité qui est importante.
Merci beaucoup, Gaëlle Lejeune, d'être venue répondre à nos questions à propos de cette campagne 2019 de l'impôt sur le revenu et du contexte fiscal. Les salles de shoot s'installent un petit peu plus dans le paysage. À Paris, dans le quartier de la Gare du Nord, les plaintes de riverains existent toujours, mais moins qu'avant. Moins de scènes de toxicomanes qui se droguent en pleine rue, et à minima un suivi sanitaire à l'intérieur de la salle. À Strasbourg, information de nos confrères du Figaro ce matin, des lits seront installés dans la salle l'hiver prochain. Plus de la moitié des usagers sont SDF. Les accueillir peut-être contribuer à les sortir de la rue. Et puis, ouverture d'une troisième salle, ce sera à Marseille, Isabelle Dor.
Le sujet est très délicat ici. Le maire est d'accord, mais à condition que cette salle de shoot soit installée dans un hôpital. Quant à l'adjoint à la santé chargé du dossier, il préfère rester discret sur ce projet, car il rencontre une forte opposition. Un projet en gestation depuis longtemps et qui a déjà échoué une première fois. Alors aujourd'hui, les élus comme l'hôpital restent très prudents. Ils travaillent notamment avec une demi-douzaine d'associations d'aide aux toxicomanes, comme le Tipeee, sa directrice Sylvie Priez.
C'est une urgence sanitaire. Et c'est l'aboutissement de notre travail. Le principe, c'est que les personnes viennent avec leurs produits, on leur fournit le matériel pour injecter, le conseil accompagné, l'éducation à l'injection, mais certainement pas le produit. Ils viennent avec leurs produits.
Qui s'oppose à ce genre de projet?
Pas mal de gens qui connaissent pas le travail qu'on fait et qui pensent que parce qu'on va faire ce travail-là, on va inciter les gens à prendre des drogues.
C'est au contraire un outil de réduction des risques, estime l'adjoint au maire qui porte le projet. Le cahier des charges devrait être prêt d'ici un mois et le dossier complètement ficelé en septembre si personne ne fait barrage, comme cela s'est déjà produit il y a quelques années. Marseille, Isabelle Dor, France Inter.
Il y a de plus en plus d'étudiants français dans les universités belges. Il serait 21 000 aujourd'hui, 10% des effectifs des universités francophones. Et les dents commencent à grincer chez nos voisins. D'ailleurs, le débat est européen sur le coût des études supérieures. Pourquoi tant de Français en Belgique? Il y a la langue, la proximité géographique et puis les frais d'inscription ne sont pas élevés, Pierre Benazé.
Qu'il s'agisse d'étudiants belges ou non, le seul montant exigible en Belgique, c'est un maximum de 835 euros de frais de scolarité annuels. Mais en moyenne, une année d'études coûte entre 7 et 9 000 euros. C'est donc le contribuable belge qui paye la différence. Maxime Mikkels, président de la Fédération des étudiants francophones.
Ce que fait la France en réalité, c'est qu'elle a un réel défaut de solidarité avec la Belgique, puisqu'elle refuse que les futurs professionnels chez elle demain, qui payeront leurs impôts et qui contribueront à la richesse nationale, elle refuse de financer leur formation. Et donc elle les envoie en Belgique. Et donc si demain la France refuse d'accueillir dans ses institutions directement des étudiants, si elle veut qu'ils soient éduqués et qu'ils reçoivent une éducation en Belgique, en fait elle va devoir payer.
Professeur à l'université catholique de Louvain, Vincent Iserbit propose lui que tous les pays européens attribuent à leurs étudiants une enveloppe de 1500 à 2000 euros à utiliser dans son pays ou ailleurs dans l'UE comme frais de scolarité.
L'idée, c'est de donner aux étudiants un montant qui les inciterait davantage à s'inscrire où qu'ils veuillent sur le territoire de l'Union européenne. Ils seraient porteurs d'un droit, au fond, qu'ils pourraient activer.
En attendant une solution budgétaire, certains estiment ici que la qualité de la formation est menacée. Pierre Benazé, France Inter, à Bruxelles.
Une décision de justice qui va réjouir Daniel Messager. À mes côtés, une jeune femme qui avait cassé le nez d'un garçon qui lui avait mis la main aux fesses a bénéficié d'un non-lieu. Ça se passe en Autriche. La justice estime qu'elle a agi de manière appropriée. Bonjour Daniel.
Bonjour Bruno.
Votre chronique santé commence en musique cette semaine. C'est Mick Jagger et les Stones, c'est ça, hein?
Ah ouais, ça c'est lui, oui, ça c'est sûr.
Heart of Stone. Quel choix judicieux, Daniel. Le cher Mick vient de bénéficier d'une technique d'intervention cardiaque dont vous nous parlez aujourd'hui.
Et oui, on parle de cardiologie interventionnelle. On est là dans le domaine de la réparation ou du changement de valve cardiaque. Et à l'hôpital européen Georges Pompidou, on vient justement de procéder aux premières réparations de valves tricuspides. Alors ce n'est pas la plus connue, il y en a trois, l'aortique, la mitrale et celle-ci, mais le procédé est le même. Il n'y a plus d'anesthésie générale, on n'ouvre plus le thorax, on ne fait plus de circulation extracorporelle. C'est le même principe que pour installer un stent, on rentre un cathéter par l'aine. Le docteur Nicole Karam a dirigé l'équipe qui a réalisé cette intervention.
On va piquer au niveau de la jambe en fonction de la valve qu'on vise à réparer. On va piquer au niveau du pli de l'aine soit une artère, soit une veine. Donc les artères et les veines sont directement connectées au cœur. Donc on va remonter là-dedans et arriver au cœur et donc à la valve qu'on veut réparer. On y arrive avec des cathéters et à l'intérieur, il y a les valves. La valve, elle est pliée, elle est mise dans le cathéter et elle ne va s'ouvrir qu'au niveau de la valve qu'on veut remplacer. Donc on a deux écrans qui nous permettent de voir ce qu'on est en train de faire à l'intérieur. On n'ouvre pas, donc on se contente de ça.
Et voilà comment on sauve le rock'n'roll et des milliers de patients. L'inventeur de cette technique révolutionnaire est un Français, Daniel.
Le professeur Alain Cribier qui a travaillé pendant des années pour mettre au point cette intervention, beaucoup moins invasive. Il a réalisé la première à Rouen en 2002 et dès le premier patient, ça a été un succès.
Dès le premier patient en 2002, ça a été un succès vraiment, jusqu'à ce qu'on ait maintenant plus de 400 000 patients implantés dans le monde, dans pratiquement tous les pays. Ça a été une sorte de courbe de succès permanent. Et c'est seulement il y a deux semaines ou trois semaines qu'une étude américaine extrêmement importante a montré qu'on pouvait éventuellement le proposer à l'ensemble des patients, quel que soit le risque. Donc c'est une technique qui est en plein épanouissement, qui reste en plein épanouissement. En ce qui concerne Mick Jagger, c'est un patient qui a 75 ans, qui a probablement été considéré comme ayant des risques intermédiaires à la chirurgie. Et je pense qu'il n'a pas hésité très longtemps à avoir une technique qui lui permette de reprendre ses activités rapidement.
Et reprendre ses activités pour lui, c'est chanter en courant beaucoup sur scène. Et cette technique permet de récupérer très vite sans rééducation. Alors avec une valve aortique, en ce qui le concerne toute neuve, imaginez l'énergie.
Il va peut-être pouvoir prendre la tête de l'équipe de France de rugby pour ou contre un entraîneur étranger à la tête des Bleus. La Fédération de rugby consulte les clubs amateurs en ce moment. Trois jours de vote, les arguments du débat avec Jérôme Val, le président de la Fédération, pense déjà à un homme.
L'homme providentiel peut-il venir des antipodes? Bernard Laporte a contacté à plusieurs reprises Warren Gatland, un néo-zélandais qui a remporté trois grands chelems avec le Pays de Galles. Il attend pour confirmer son choix le verdict des clubs amateurs, dont celui de Neuilly en région parisienne. Pour son président Christophe Renaud, cette réflexion va dans le bon sens.
Je trouverais très intéressant qu'on pose un regard neuf, parce que vraisemblablement, en mettant le meilleur des entraîneurs français, on n'y est pas arrivé, donc c'est peut-être qui nous manque ce regard neuf.
Le débat est loin d'être tranché, les questions restent nombreuses. Qu'en sera-t-il de l'identité du 15 de France, le fameux French Flair? Un étranger arrivera-t-il à travailler avec les acteurs du top 14? En tout cas, cette idée est hors de propos pour Benjamin Perrier, président du club de Drancy en 4e division.
Je pense qu'il y a d'autres problématiques dans l'équipe de France que la nationalité de l'entraîneur. C'est plutôt un mode de fonctionnement qui n'est pas adapté. Le top 14 qui n'est pas très bénéfique pour l'équipe de France.
Le rugby français prépare peut-être sa révolution, un tournant opéré depuis longtemps chez nos voisins britanniques. L'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande sont dirigés par des étrangers depuis plusieurs années déjà.
Après Mick Jagger, bulletin de santé d'une autre gloire éternelle, Pelé, 78 ans de retour au Brésil après quelques jours d'hospitalisation à Paris pour une infection urinaire. Il va nettement mieux.
La météo avec Gauthier, la marque française de mobilier contemporain. Et pour trouver le mobilier de vos rêves, rendez-vous en magasin et sur gauthier.fr.
Sébastien Lias.
Les nuages bourgeonnent cet après-midi jusqu'à donner des averses. Ces averses peuvent localement être soutenues et orageuses, notamment en Basse-Normandie, sur les hauteurs du Massif central, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et au sud de la Garonne. Ailleurs, le risque d'orage est plus faible, les averses sont moins nombreuses. Sur les Alpes et les Pyrénées, on attend aussi un peu de neige à partir de la moyenne montagne. L'après-midi est plus calme sur l'est de la Corse et du Midi toulousain à la Gironde jusqu'en Bretagne, avec des éclaircies assez belles, notamment au sud de la Loire. En revanche, entre les frontières de la Belgique, la Picardie et l'embouchure de la Seine, les nuages restent compact et s'accompagne régulièrement de passages pluvieux cet après-midi, en particulier sur le Nord-Pas-de-Calais. Les températures de cet après-midi atteignent 11 à 18 degrés en général, les maximales montant jusqu'à 20 degrés autour de la Méditerranée.